Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce qu'on fait ici?
Bonjour à Radio Univers, bonjour tout le monde. Je suis Vincent Ladairon, je suis animateur technique du réseau de l'assainissement écologique. C'est un réseau qui fédère depuis plus de 20 ans, depuis 20 ans l'année prochaine, les acteurs de l'assainissement écologique et notamment de la toilette sèche. Et aujourd'hui, on va faire une visite avec plusieurs personnes d'un système de traitement des eaux ménagères, des eaux grises. Donc quand je vais parler dans cette interview d'eau ménagère, ce sera eau grise. Traitement des eaux grises par filtre à broyat de bois.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce traitement?
L'association, le réseau de l'assainissement écologique, porte depuis plus de 10 ans des études et recherches scientifiques sur le traitement des eaux grises, en partant du constat que rien n'est prévu dans la réglementation française pour traiter seulement les eaux grises pour toutes les personnes qui ont des toilettes sèches. Donc avec notamment l'INRAE de Lyon et l'association Pierre et Terre dans le Gers. L'éco-centre Pierre et Terre, le réseau porte des travaux de recherche sur le traitement des eaux grises et on est arrivé au développement d'une filière qui s'appelle le filtre à broyat de bois qui permet très simplement, à partir de tranchées réalisées dans le sol et remplies de broyat de bois, de traiter ces eaux grises qui sont le principal volume de nos eaux usées, environ 70% du volume, mais qui sont par contre peu polluantes, avec on va dire 20% de la charge polluante. Comprise dans nos eaux usées, une fois qu'on enlève les urines et matières fécales de nos eaux usées, qui sont la partie la plus polluante.
Et est-ce que ça veut dire que du coup, aussi bien dans la loi que dans les DTU qui sont utilisés actuellement pour faire de l'assainissement non collectif, aucune solution ne correspond aux eaux ménagères seules?
Alors effectivement, dans la réglementation de l'assainissement non collectif, donc du 7 septembre 2009, révisée en 2012, il y a effectivement un article sur les toilettes sèches. Ça a été, on va dire, quand même une petite victoire de réussir à faire inscrire les toilettes sèches dans la réglementation française. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que rien n'a été prévu pour toutes les personnes qui ont installé des toilettes sèches. Il leur reste des eaux grises à traiter. Et rien n'a été prévu dans la réglementation pour traiter ces eaux grises. Donc c'est vraiment un vide juridique. Donc on s'est fait notre première réflexion là-dessus date de 2010-2012 avec la venue d'une experte on va dire américaine sur le traitement des eaux grises, Laura Allen, qui travaille elle sur la pédoépuration, c'est l'ancien terme qu'on donnait au filtre à broyat de bois, qui est venue en 2012 former plusieurs personnes de l'association, puis ensuite on a démarré des recherches avec l'INRAE sur le sujet. Et on a été jusqu'à porter un arrêté dérogatoire qui est sorti le 30 mars 2023 qui permet de déroger à la réglementation française grâce à un dispositif qui s'appelle France Expérimentation. Donc c'est un dispositif qui permet, dès qu'il y a un vide juridique, de déroger exceptionnellement à la réglementation française. Et du coup, cet arrêté dérogatoire permet à titre expérimental sur le territoire français et outre-marin, l'installation de 30 filières d'assainissement non collectif des eaux ménagères par filtre à broyat de bois.
Donc c'est une Américaine qui vous a formé, ça veut dire que ce sont des choses qui sont déjà pratiquées ailleurs dans le monde?
Oui, effectivement. J'ai pas précisément la connaissance de la réglementation européenne ou américaine dans notre pays, mais je sais que dans certains États, en tout cas aux États-Unis, il est autorisé le traitement des eaux ménagères par pédoépuration, donc filtre à broyat de bois, avec des choses vraiment très rustiques, simplement des bassins remplis de broyat de bois et ils appellent ça de mulch, en gros de BRF, quoi, de bois raméal fragmenté, dans lesquels vont arriver les eaux ménagères. Donc c'est effectivement des choses qui se font, et nous on espère que ce système soit aussi intégré à la réglementation à terme.
D'accord, vous avez une date un petit peu près, une estimation?
L'expérimentation nationale, donc du coup l'arrêté est sorti en mars 2023. Il y avait jusqu'à un an pour candidater, donc mars 2024. On a reçu 250 candidatures. À partir de là, on a fait une sélection des candidatures pour avoir... parmi ces 30 installations, qui sont quand même, c'est quand même peu 30, pour avoir quelque chose le plus représentatif possible. entre le type de maison, par exemple résidence principale ou résidence secondaire, la taille de la maison, le nombre d'occupants, s'il y a ou pas un poste de relevage, le type de sol. Donc à partir de ça, on a fait toute une analyse, on va dire multicritère, pour avoir 30 installations. Ces 30 installations réparties dans la France entière, Martinique, Guyane et La Réunion. C'est la France, mais bien sûr hors hexagone. Et là, en parallèle, il y a l'INRAE de Lyon qui fait un suivi scientifique très poussé sur 4 installations, avec à la fois un suivi hydraulique et physico-chimique sur comment réagissent les filtres, qu'est-ce qu'on a en entrée et en sortie, avec des prélèvements qui sont réalisés sous les filtres et sous le sol, des tranchées de 1,50 m qui ont été creusées de chaque côté des filtres, avec des plaques poreuses qui sont installées en dessous pour voir qu'est-ce qui va percoler à travers du sol. Ça, c'est, petit aparté, c'est la première fois, on pense, que c'est quelque chose du genre qui va être fait dans l'assainissement non collectif, parce que tout l'assainissement non collectif est basé sur le pouvoir épurateur du sol, mais personne ne sait ce qui sort vraiment en dessous les tranchées d'épandage, sous les épandages. Alors que là, en plus, on est vraiment sur des seules eaux ménagères, donc ça va être sans urine et matière fécale, donc vraiment peu polluante. Et du coup, les premiers résultats sont attendus fin 2027, début 2028, qui est en même temps la date de fin d'expérimentation.
D'accord, donc en fait, ça va faire quelque chose comme 3 ans d'expérimentation à peu près. Et quand on fait un agrément pour d'autres procédures, il me semblait que, enfin pour d'autres équipements, il me semblait que c'était beaucoup plus court. Comment ça se fait que ce soit aussi long pour des eaux qui sont quasiment peu polluantes ?
Alors on est même plus que, officiellement c'est même 5 ans, hein, c'est 2023-2028, mais ça a un peu traîné au niveau des ministériels pour envoyer les lettres de sélection à l'expérimentation, mais quand même on va avoir des sites qui vont être installés dans les sites de l'expérimentation pendant plus de 4 ans, et puis en France ça fait plus de 10 ans qu'on a on va dire plusieurs sites qui sont installés et qu'on suit. Sur la procédure d'agrément, j'ai plus en tête précisément la durée de suivi. En fait, il y a une procédure plutôt longue, de 1 an ou 2 ans, et une procédure raccourcie qui permet en même temps de modifier certains agréments existants et de faire accélérer la procédure. Je ne sais pas pourquoi ce délai, mais en tout cas, nous, ça ne nous dérange pas qu'il y ait plusieurs saisons de suivi des systèmes par notamment le laboratoire scientifique INRAE et son laboratoire MatCarb, pour qu'on soit sûr que sur le temps long, ça fonctionne bien. Et il y a aussi des questions un peu d'entretien après, quoi. Tout dispositif d'assainissement nécessite un entretien. Donc si ça nous permet d'avoir un avis précis de qu'est-ce qui est nécessaire en termes d'entretien et de maintenance pour que l'installation soit pérenne. Nous, du coup, on passe par une autre voie réglementaire, on va dire, pour essayer de faire autoriser ce système-là dans la réglementation française, en espérant qu'elle soit intégrée à la réglementation, non pas au titre des systèmes agréés, mais au titre des systèmes, des filières traditionnelles. Donc intégrée directement à la réglementation.
On est d'accord que si c'est une filière traditionnelle, ça veut dire qu'il pourra y avoir aussi de l'autoconstruction sur la réalisation du système.
C'est un des principes pour nous de l'assainissement écologique. C'est que ce soit accessible à la fois économiquement et techniquement, et en même temps de pouvoir responsabiliser l'individu sur la gestion de ses urines, matière fécale et son assainissement. Donc on pousse effectivement à ce que l'autoconstruction soit possible. Après, on est vraiment, on navigue entre ce besoin des SPANC, les services publics d'assainissement non collectif, d'avoir des normes, des DTU, des réglementations, surtout en fait au niveau pour eux assurantiel, de pouvoir s'assurer que ce soit bien réalisé. Donc on est vraiment à cheval entre ce besoin de tout normer, de tout codifier, d'avoir un broyat de bois qui soit acheté quelque part avec une certaine taille, une certaine norme. Et nous, de l'autre côté, on est vraiment sur l'autoconstruction, le low-tech, le do-it-yourself, de pouvoir le faire simplement mais que ce soit en même temps bien fait, quoi. Parce qu'on se rend compte quand même que quand on est que de l'autoconstruction et quand chacun peut faire les choses, bah, y a parfois certains écueils et certaines règles techniques de base qui sont pas respectées ou peu respectées. Donc on incite vraiment aussi les gens à se faire accompagner néanmoins et à contacter aussi notre association, quoi. C'est le but. Nous, on essaye d'accompagner les gens pour que ça se fasse le mieux possible, quoi.
Oui, votre réseau rassemble beaucoup de professionnels, en fait.
On est à une centaine de particuliers et structures, en gros. Avec à la fois des professionnels. Historiquement, le réseau a été créé en... Enfin, la première rencontre, les premières intestinales, c'était le mouvement, la rencontre créatrice du réseau, qui s'est réalisée à Saint-Merde de La Plot en 2006. C'était à la base avec des loueurs de toilettes sèches qui avaient plusieurs mètres cubes d'urine et de matière fécale sur les bras en fin de saison et qui ne savaient pas trop quoi en faire. Du coup, qui sont réunis et mis en réseau pour créer un groupe, on va dire, d'échange de bonnes pratiques et de savoir. Et après ça, il y a des constructeurs de toilettes sèches qui sont rajoutés, puis des bureaux d'études en assainissement non collectif, puis des chercheurs. On a plusieurs chercheurs, on va dire, renommés sur la question, notamment le programme OCAPI à Paris, qui travaille sur la question, qui font partie du réseau. Et maintenant, on a des bureaux d'études architectes qui travaillent sur l'intégration de systèmes de toilettes sans eau à l'échelle du bâtiment. Et de bâtiments de plusieurs niveaux en zone urbaine. On a aussi des associations de défense de l'environnement et des usagers. Donc voilà, tout ça, c'est à peu près une 120 membres répartis dans toute la France. Voilà.
Et vous, comment vous en êtes venu à travailler au RAE?
Dans mon parcours, je suis tombé sur une conférence gesticulée de quelqu'un qui habite à Dol de Bretagne. Qui a notamment réussi avec son collectif sur un habitat participatif qui s'appelle l'Auberge à intégrer des toilettes sans eau séparatives dans un bâtiment. Donc Samuel. Et je suis tombé sur une conférence gesticulée qui s'appelle l'eau Sachi de la SCOP Le Pavé qui est toujours disponible sur YouTube pendant mes études en fait, d'ingénieur en sciences de l'eau et en assainissement des eaux usées. Donc je suis tombé là-dessus, sur cette conférence gesticulée qui parle de toutes les problématiques liées à la gestion de nos urines et matières fécales et de nos eaux usées en général. Et puis en fait, petit à petit, ça fait 10 ans que je me suis spécialisé dans le domaine et je suis passé par différentes structures, associations et entreprises avant de rejoindre d'être salarié du réseau de l'assainissement écologique depuis le début d'année. Sachant qu'on est 2 salariés, il y a une coordinatrice du réseau et moi plutôt sur la partie technique. Mais pendant 17 ans, tout ce qui est sorti du réseau a été vraiment 100% bénévole. Toutes les études, toute la création, tous les documents qui ont été sortis du réseau, tout le lobbying auprès des ministères, tout ce qui a été fait était vraiment 100% bénévole, donc un gros travail bénévole. Et c'est toujours le cas. Dans le réseau, il y a une dizaine de commissions. Sur le lien avec l'agriculture, sur la formation, comment on va réfléchir à former des techniciens de collectivité, des professionnels du bâtiment, sur la partie réglementation, sur le déploiement des filières, sur le compostage. Donc il y a une dizaine de... sur la révolution culturelle, comment on fait pour changer nos imaginaires sur la question. Il y a une commission dédiée à l'organisation des intestinales qui a lieu chaque année. D'ailleurs, l'année prochaine, c'est les 20 ans des intestinales, petit aparté. 20 ans des intestinales, on organise un festival à Ramonville, à côté de Toulouse, du 6 au 8 mai 2026. Donc le grand festival de la toilette sèche, très festif. Donc voilà.
Super information. Vous avez parlé du lien avec l'agriculture, c'est intéressant. Actuellement... on sait qu'utiliser les matières fécales humaines est absolument proscrit dans la réglementation. On ne peut rien cultiver avec. Par contre, on parle beaucoup au niveau européen, voire peut-être français, de réutilisation de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots là-dessus?
Alors déjà, le premier point, c'est est-ce que c'est proscrit dans la réglementation? Et si oui, dans quelle réglementation? D'utiliser nos matières fécales dans l'agriculture. Pour nous, c'est pas interdit. C'est pas non plus peut-être pas autorisé explicitement. En fait, on va dire qu'il manque une caractérisation sémantique de nos urines et matières fécales dans la codification, on va dire, de déchets. Donc, il n'y a rien qui encadre précisément le retour au sol des urines et matières fécales. Il n'y a rien qui interdit, il n'y a rien qui autorise. Néanmoins, est autorisé le compostage des urines et matières fécales en assainissement non collectif, avec un retour au sol qui est généralement admis par les services qui font le contrôle, généralement les services publics d'assainissement non collectif en zone rurale et périurbaine, où ils vont sans doute souvent préconiser de mettre le compost des matières de toilettes sèches en pied d'arbre plutôt que dans le potager. Mais si vous le mettez dans votre potager, il n'y a rien qui vous l'interdit. Nous, on fait souvent le parallèle avec les lisiers porcins, par exemple les lisiers animaux, où personne ne se pose la question de la quantité d'antibiotiques ou d'hormones qui va être donnée au porc breton avant que les lisiers repartent au champ. Et les études scientifiques montrent que les concentrations en résidus pharmaceutiques, en micropolluants en général, sont bien plus faibles dans les urines humaines. Hors antidépresseurs, où là on a quand même des concentrations plus importantes dans les urines humaines.
Et, vous voulez lui dire qu'on ne donne pas encore d'antidépresseurs aux cochons. Ils en auraient quand même peut-être bien besoin, mais bon.
Antidépresseurs et caféine, c'est les traces qu'on retrouve dans nos urines. Mais du coup, il n'y a rien qui l'interdit. Et sur les autres pays européens, historiquement, c'est vraiment les pays scandinaves qui ont porté le retour dans l'agriculture des urines humaines depuis les années 90, avec des quartiers entiers qui sont installés en toilettes séparatives, donc comme c'est fait à Dol de Bretagne, avec des toilettes séparatives qui permettent de séparer l'urine des matières fécales, et avec des cuves de plusieurs dizaines de mètres cubes installées au milieu du quartier, et l'agriculteur passe pomper la cuve d'urine avant de la stocker généralement au champ. Parce que selon l'Organisation mondiale de la santé qui a publié un guide sur le sujet, le stockage suffit à l'auto-hygiénisation des urines avant retour au sol. Donc, il y a aussi en Allemagne, donc voilà, c'est vraiment pays scandinave, Danemark, Suède globalement. En Allemagne, il y a aussi une forte dynamique avec des projets de recherche assez poussés sur le retour au sol des urines et matières fécales. Et la réglementation qui semblerait être bien avancée sur le sujet. Et aussi en Suisse, il y a quelques projets. Mais néanmoins, la France est quand même relativement motrice sur la question de la séparation à la source des urines et matières fécales, avec des gros projets. On peut citer le projet Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Là, on va avoir 600 logements en plein centre de Paris qui vont être installés avec des urinoirs sans eau et des toilettes séparatives, avec directement à l'intérieur du bâtiment, dans la cave, une unité de production d'engrais à partir d'urine humaine. Donc ça va être à l'horizon 2027-2028. Et là, un engrais qui, lui, a reçu une autorisation de mise sur le marché. Engrais à partir d'urine humaine, donc il y a une stabilisation, une nitrification, puis une filtration sur charbon actif pour enlever les micropolluants. Mais ça, c'est autorisé dans la réglementation pour un retour sur les plantes ornementales et comestibles. Généralement, ce que font les loueurs de toilettes sèches au niveau réglementaire pour remettre au sol leurs urines et matières fécales, c'est soit ils passent par des plateformes de compostage agréées avec les déchets verts généralement, qu'on compostage avec des déchets verts, où là, c'est plus ou moins accepté suivant les plateformes de compostage, vu qu'il y a vraiment, comme je vous disais, un manque de caractérisation sémantique des matières dans la réglementation, ou alors ils passent par des plans d'épandage. Donc ça, c'est la loi sur l'eau qui encadre les plans d'épandage, où une déclaration doit être nécessaire au-dessus d'un certain seuil d'azote apporté au champ. Donc en gros, on peut apporter entre 150 et 200 mètres cubes d'urine au champ sans avoir de mémoire à faire de déclaration officielle.
Thank you.
parlé au niveau quasiment national pour des plans d'épandage, pour de l'agriculture, et au niveau des particuliers, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà en toilette sèche avec des gestions de l'eau différenciées comme ça, ou combien y a-t-il de gens qui pourraient peut-être être prêts à passer ?
Alors, c'est vraiment une question très compliquée sur le recensement du nombre de personnes en toilette sèche à l'échelle nationale. Comme ça, au doigt mouillé, je dirais entre 100 000 et 200 000 personnes peut-être. Mais c'est vraiment au doigt mouillé, hein. Vous aurez dit plus ou moins ?
Beaucoup moins dans les sources qu'on trouve.
Combien, vous dites ?
5 000.
Ouais, ah ouais ? On a trouvé 5 000 dans un livre très récent qui est écrit en 2025. Et, ah mais ouais. Il dit lui-même que c'est au doigt mouillé.
Ouais, alors, bah ouais, c'est qu'au doigt mouillé. Voilà. On avait fait, pendant des intestinales, on avait essayé de faire une estimation justement du nombre de toilettes sèches à partir de... des toilettes sèches vendues, voilà, les principaux vendeurs de systèmes de toilettes sèches pour les particuliers. Rien qu'en toilettes publiques sèches, entre, pour pas citer les gros, mais entre Sanisphère et Kazuba, des Sanisphères, il y en a près de 1000-1500 en France. Des Kazuba, il y en a peut-être pareil, 500 ou 1000. Donc ça fait juste les toilettes publiques sèches, ça fait déjà plus de 2000.
Des toilettes publiques, on en voit énormément, effectivement. C'est juste chez les particuliers, ouais, où je m'interroge sur combien... ont une déclaration, par exemple, chez le SPANC. Est-ce que c'est des informations qu'on peut trouver, ça, qui sont publiques ou pas ?
C'est très compliqué, parce que les SPANC, il y en a, je crois, 2500 en France. Et il n'y a pas précisément de, je crois... Il y a une remontée, on va dire, du nombre d'installations qui sont conformes ou non conformes, ou non conformes avec risques sanitaires environnementaux. Ça, on a des chiffres très précis là-dessus. Mais après, sur le nombre de toilettes sèches, malheureusement, il n'y a pas de recensement. Et aussi, en fait, il y a plein de toilettes sèches qui sont installées dans des fourgons aménagés, sur des yurts, sur des tiny houses, sur vraiment de l'habitat léger, où là, généralement, les gens ne se mettent même pas en relation avec le SPANC ou déplacent leur habitat. Donc, allez, on va dire entre 50 000 et 100 000. Imaginons qu'il y ait 1% du parc français d'assainissement non collectif avec des toilettes sèches. 1% de combien ? De 5 millions ? Combien ça peut faire ça ? 1% de 5 millions ?
50 000.
Allez, 50 000. Il pourrait y avoir 50 000 toilettes sèches en France. On peut dire ça.
Très bien. Et donc 50 000 personnes.
Et j'attends les auditeurs ou les auditrices, j'attends vos contre-chiffres. Vous pouvez m'envoyer un mail sur la page contact du réseau de l'assainissement écologique si vous avez d'autres chiffres plus fiables que les miens. Et du coup, comment... Nous, c'est vraiment le principe de base de l'assainissement écologique, c'est vraiment sortir nos matières du cycle de l'eau. Parce qu'une fois que nos matières vont dans le cycle de l'eau, elles sont beaucoup plus compliquées à traiter et en fait elles sont diluées. En gros, les urines, c'est 1,5 litre par personne et par jour, ça fait 500 litres par an, et les matières fécales, c'est en gros 200-250 grammes par personne et par jour, ça fait 50 kilos par personne et par an. Donc on utilise, et sachant que la quantité d'eau, c'est 100-150 litres par personne et par jour, donc on va jusqu'à 10 mètres cubes, je crois, les chiffres, par personne et par an. Donc on utilise 10 mètres cubes d'eau pour diluer 50 kg de matière fécale et 500 litres d'urine. Donc il faut vraiment imaginer ce que ça représente, quoi. 500 litres, ça fait un demi-mètre cube, et 50 kg, c'est vraiment un petit volume. Tout ça dans 10 mètres cubes d'eau. Donc c'est complètement dilué. Et après, ça vient poser des problèmes sur toute la chaîne. Donc de à la fois, donc nous, notre corps, tout ce qu'on ingère, on le rejette entièrement. Donc, à savoir l'azote et le phosphore qu'on va ingérer par notre alimentation, on le ressort entièrement par nos excrétions. Notre métabolisme, on va dire, les transforme, mais nous, on n'accumule pas. Sinon, on grossirait indéfiniment jusqu'à la fin de nos jours. Notre masse, elle est plutôt stable au cours de notre vie. Donc d'un côté, l'azote et le phosphore qu'on ingère via notre alimentation est issu de ressources non renouvelables, fossiles. Donc à la fois l'azote par le procédé Haber-Bosch, qui permet à forte pression, à forte température, de synthétiser le diazote de l'air pour en faire de l'azote ammoniacal, et le phosphore qui vient de ressources phosphatées, des roches non renouvelables, Sahara occidental, Chine, États-Unis.
Avec un peu de cadmium dedans.
Avec beaucoup de cadmium dedans, exactement, avec les scandales sanitaires qu'on a en ce moment. Donc d'un côté, on a de l'azote et du phosphore issus de sources non renouvelables, avec vraiment là un problème de, à la fois de consommation énergétique, de pollution de l'air, des sols, et de souveraineté, pollution, consommation énergétique, donc des problématiques en amont. Et ensuite, en aval, donc nos urines et matières fécales vont rejeter cet azote et ce phosphore, qui en fait la station va se retrouver en station d'épuration, qui est en fait une usine à détruire l'azote et le phosphore, avant de le renvoyer soit dans l'air ou soit dans l'eau, avec 30% de l'azote, par exemple, qui repart dans les cours d'eau directement, avec tous les problèmes que ça pose. Algues vertes en partie, mais ça c'est aussi dû à la concentration d'élevage en Bretagne, mais globalement eutrophisation et pollution des masses d'eau, présence de micropolluants, féminisation de poissons, donc tout ce que ça pose au niveau des problèmes sur la ressource en eau. Et donc ça, on a d'un point de vue qualitatif. Et au niveau quantitatif, la consommation en eau pour nos chasses d'eau, c'est en gros 20 à 30% de notre consommation en eau qui part juste pour évacuer nos urines et matières fécales. Et là, sur les études montrent vraiment qu'on va atteindre un seuil en fait sur la réduction de notre consommation en eau avec tous les dispositifs hydroéconomes qui sont mis en place, les réducteurs de débit, les mousseurs, les trucs pour réduire la chasse. Mais on va arriver à un seuil et la seule manière de passer un étage supplémentaire sur la réduction de la consommation en eau, c'est d'arrêter de faire pipi et caca dans l'eau potable. Ça pose après d'autres problèmes sur la tarification en eau, la tarification de l'eau et des systèmes d'assainissement, parce que l'eau paye l'eau. Et voilà, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Donc pour nous, voilà, c'est vraiment la vision globale de à la fois l'approvisionnement en alimentation et la destruction d'un autre côté de nos urines et matières fécales. Et l'idée, c'est de passer d'un système alimentation-excrétion linéaire à un système qui soit de nouveau circulaire. Donc de remettre au sol ce qui est prélevé d'un côté pour reproduire notre alimentation de l'autre côté.
Donc en fait, aujourd'hui, on est assis sur une mine d'or, nos déjections qu'on met à la poubelle et qui en plus nous coûte cher parce qu'on pollue.
Exactement. Les externalités négatives du rejet de nos urines et matières fécales dans l'eau et de sa dilution sont énormes en fait. En termes d'énergie consommée, en termes de pollution des masses d'eau, pollution de l'air, particules fines, production d'engrais, import de gaz russe pour faire de l'engrais, les externalités sont énormes. Après, c'est comment on fait. En fait, c'est pas si ancien le fait qu'on remette au sol nos urines et matières fécales. Des vidangeurs de fosses à Paris, il y en avait encore dans les années 50-60, avec une usine de production de poudrette, qui était un engrais à partir d'excréta humain, qui se faisait à l'extérieur de Paris. Donc c'est pas si ancien. C'est juste que le tout chasse d'eau, le tout à l'égout, l'hygiénisation, on va dire, ce truc de l'hygiénisation a vraiment fait porter un regard sur nos urines et matières fécales, qui fait qu'il est très compliqué maintenant d'aller dans l'autre sens et de réfléchir à des systèmes qui permettent la séparation et la collecte de nos urines et matières fécales. Et la création de filières fait qu'il faut qu'on pense depuis l'interface usagée, le toilette, jusqu'au stockage dans le bâtiment, jusqu'au transport, jusqu'au traitement, jusqu'au retour au sol, jusqu'à l'acceptabilité par les consommateurs des produits potentiellement qui ont été cultivés avec des engrais humains. Il y a un grand travail sur toute la chaîne pour pouvoir faire accepter de nouveau cette chose-là.
Quelque part, on a bien réussi avec les poubelles. Avant, on mettait tout à la poubelle. Maintenant, ça n'a plus de sens s'il n'y a pas deux ou trois poubelles minimum pour pouvoir trier ces rejets. On peut peut-être arriver aussi avec les excréments humains.
Très bon parallèle. Ça n'a plus de sens pour certes, pas pour tout le monde non plus encore, hein, le tri sélectif. Mais effectivement, comme de la même manière qu'on effectue à la source le tri du verre, du plastique et des ordures ménagères résiduelles, et maintenant des biodéchets, nous on a vraiment un réseau ami qui est le réseau Compost Citoyen, qui milite voilà, pour du compostage de proximité des biodéchets. Il y a eu des obligations réglementaires avec l'obligation pour chacun de disposer d'une solution pour traiter ses biodéchets à la source. Et bah, de la même manière, on espère que d'ici 5-10 ans, il y a en tout cas une incitation, en tout cas des politiques publiques qui permettent une meilleure séparation de nos urines et matières fécales. Mais le parallèle, il est bien, quoi. Entre le tri des déchets et le... Pourquoi on ne fait pas de la même manière un tri de nos déjections pour que le traitement soit là, et le traitement et la valorisation soient simplifiés derrière, quoi.
Du coup, chacun, comment peut-on participer à regagner de la valeur sur nos déchets et à la fois ne pas polluer ?
Eh ben, il y a un projet là que je peux vous citer qui est sympa, qui se fait là au sud de Paris, c'est la MAP Pipi. C'est une AMAP sur le principe du maraîcher fournit chaque semaine un panier de légumes qui eux ont mis en place cette AMAP pipi. Ça veut dire que chaque personne qui consomme des légumes fait pipi simplement dans un bidon chez soi ou dans un urinoir sec et ramène son bidon tous les vendredis soirs au moment de la distribution des fruits et légumes. Il y a un point d'apport volontaire de l'urine qui est mis en place et en repartant, donc le maraîcher arrive avec ses légumes et plutôt que de repartir à vide, il repart avec plusieurs centaines de litres d'urine pour que ça reparte derrière à ses cultures. Donc citoyens, vous pouvez imaginer la création d'AMAP Pipi. Vous pouvez vous rapprocher d'associations locales de protection de l'environnement qui travaillent sur la question. Vous pouvez essayer de sensibiliser vos SPANC sur la question. Là, on est en train de porter un projet de loi pour le prochain projet de loi de finances de 2026 qui vise à taxer les vendeurs d'engrais pour que cette taxe puisse ensuite servir à la transition agroécologique et notamment au retour au sol des biodéchets, des urines et matières fécales. Donc on porte cette proposition de loi avec les Amis de la Terre et à la rentrée, on va inviter tous les citoyens à mobiliser leurs élus sur la question en espérant que malgré la chance qu'il y ait un 49-3, que cette question soit un peu mise sur le devant de la scène. Donc l'idée, c'est comme les vendeurs de produits les vendeurs de produits phytosanitaires sont taxés sur leur chiffre d'affaires, et cette taxe sert ensuite à financer la protection contre le cancer ou à financer toutes les conséquences engendrées par la vente de produits phytosanitaires. Donc de la même manière, on aimerait que cette taxe, mais c'est des chiffres importants, hein. Si, même sur une taxe de 1%, on peut arriver à plusieurs centaines de millions d'euros qui puissent servir ensuite à déployer des filières sur la question. Donc voilà, il y a un kit de mobilisation qui va être mis en ligne sur notre site internet, donc réseau-assainissement-écologique.org, et on invite à mobiliser vos députés et vos sénateurs pour qu'ils votent en faveur de cette loi, ce projet de loi, sachant que ça va être, on espère, porté par plusieurs bords politiques. Et il y a vraiment derrière des questions de souveraineté aussi de la France vis-à-vis de l'approvisionnement en engrais. Donc c'est pas qu'un truc de gauche militant radicaux, mais il y a vraiment cette question-là de la souveraineté, de notre dépendance à d'autres pays vis-à-vis de la Russie. Donc voilà, et sinon voilà le festival début mai 2026 à Toulouse et mi-septembre il y a le programme de recherche OCAPI qui est à Paris qui fête les 10 ans de son programme de recherche avec 3 jours de table ronde, de conférences, de spectacles à Paris sur la question. Donc ça peut être vraiment chouette.
Merci Vincent pour toutes ces informations.
Merci à vous, à bientôt.